C'est différent, c'est étonnant. Je connaissais pas les machines célibataires, donc voilà. Je ne savais pas de quoi ça parlait, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais...
Vous n'arriverez toujours pas à le définir.
Non, non, non.
J'ai essayé tant bien que mal de comprendre, mais ouais, que c'est plutôt des structures mécaniques avec un mécanisme qui est à la fois technique, mais à la fois aussi interprétatif. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout un mécanisme, une logique et des interprétations possibles de ces œuvres. Voilà ce que j'ai à peu près compris. Après, bon, je me suis juste laissé porter par l'esthétique, parce que par les ressentis, ça fait réfléchir. J'ai lu aussi des petits textes sur ce qu'est le rayon vert. Ça m'a un petit peu éclairé aussi sur... Enfin, ça a orienté aussi mon regard sur le reste de l'exposition. Sur le fait de deux points qui se rencontrent, d'interaction, d'interface, comme on a avec la machine qui fait de la musique. Donc à partir d'un contact, avec les contacts que ça crée du son, du vent, voilà. Non, c'est assez plaisant de... avec les contacts que ça crée du son, du vent, voilà. Non, c'est assez plaisant.
Donc tu vas attendre quoi?
Tu sais ce que c'est le rayon vert?
Non, c'est quoi?
C'est le dernier rayon du soleil couchant. Jules Verne a écrit un bouquin là-dessus.
Ouais, j'ai pas lu. C'est porte-bonheur, hein?
C'est pas tout à fait ça.
J'ai lu le premier texte qui est assez... c'est intéressant, on comprend tout de suite là où on est, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend très vite que ça va être assez absurde et que c'est un niveau de lecture très poussé. Donc soit on se laisse porter, soit on essaie de comprendre et... Bon, il faut avoir les clés, mais ce que j'ai compris avec les différentes vitrines, c'est que j'ai vu ça un peu comme une bibliographie de préparative un peu de ce travail et de cette réflexion justement sur l'œuvre de Duchamp. Tout un travail de veille, on va dire, sur les machines, sur le fonctionnement mécanique et aussi les aspects un peu psychologiques, psychanalytiques, philosophiques.
Alors c'est le sujet le plus compliqué du monde, de définir une machine célibataire, on va dire, pour faire rapidement. C'est une notion qui peut être lue d'énormément de façons, c'est-à-dire qu'elle rapproche Michel Carouge à cette planche dans l'exposition qui a un facsimilé du livre qu'il a sorti en 1976, qui dit que c'est une notion qui ouvre un champ dioptrique, c'est-à-dire deux visions qui se rapprochent et qui créent un espace entre les deux. Sur l'homme et la machine. Donc la première question qu'on se pose, est-ce que je suis une machine en tant qu'homme? Est-ce que je suis en connexion avec les autres personnes? Ou est-ce que je suis une machine en cerveau, en circuit fermé? On va dire que c'est des machines qui sont d'abord fictionnelles et qui sont des machines mentales. C'est des machines qui mettent en moteur. Donc on peut lire la machine célibataire de beaucoup de façons. On peut la lire... On peut se dire que c'est des machines qui fonctionnent toutes seules, des vraies machines, mais ça peut être aussi justement toute la production de fantasmes ou de désirs qu'on peut avoir. Ça peut être le fait qu'avec cette production, finalement, on est le seul à avoir vraiment accès pleinement à ce monde et est-ce qu'on peut partager cet imaginaire-là ou cette production en permanence de signes, de symboles. C'est d'abord une affaire de fiction et littéraire.
Première fois avec un copain. ça n'a pas intéressé du tout. Et du coup, j'ai vu l'exposition très vite, sans vraiment m'attarder sur les choses qui m'avaient marqué. C'était toute la collection du coup, de références. Et en fait, maintenant que je reviens, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai loupées. Et je viens du coup avec une autre personne qui s'intéresse beaucoup plus. Du coup, je peux passer plus de temps. Et ce qui m'a marqué le plus, à part du coup ce travail de référence, c'est le petit carnet sur la table là-bas qui raconte du coup l'hôtel du rayon vert. Après, je sais pas, c'est peut-être lié à une expérience personnelle, mais c'est, je pense, la pièce que j'ai préférée en termes d'écriture. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est une belle exposition parce qu'on a tout, on a le son et des fois il y a des moments de silence, du coup c'est agréable parce qu'on se repose et tout. Et je sais pas, je la trouve assez familière maintenant que ça fait deux fois que je viens. Mais ouais, c'est une ambiance assez posée. Ça contraste bien avec ce qui se passe dehors en ce moment, la pluie. Et du coup, on vient ici, on se met un peu au chaud. Les machines célibataires, je crois que c'est un sujet. Après, ça peut être d'actualité aussi pour chacun d'entre nous. Et du coup, je sais pas, c'est assez contemporain de se poser la question de la solitude. Et du coup, on a envie de voir de quoi ça parle. Est-ce qu'on va se retrouver dedans? Après, je pense que j'étais aussi intéressée de base par Marcel Duchamp, mais ça, je le connais pas forcément très bien le sujet. Ça m'a interpellé, son nom m'a interpellé aussi.
Juin 1967, Marcel Duchamp est à Paris. La galerie Givaudan consacre une exposition à ces choses qui, depuis plus de 50 ans, ne cessent de remettre en question la notion même d'œuvre d'art. Ce sont les ready-made de Marcel Duchamp.
Ça veut dire tout fait, ça veut dire comme les vêtements de confection, vous savez. Alors, je suis simplement arrivé à une conclusion assez longtemps, puisque on diminue, il y a toujours quelque chose de tout fait dans un tableau. Vous ne faites pas les brosses, vous ne faites pas les couleurs, vous ne faites pas la toile. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au ready-made. Vous comprenez? Il n'y a plus rien qui soit fait. Et parce que n'importe quoi, vous savez, aussi laid que ce soit, aussi indifférent que ce soit, deviendra beau et joli après 40 ans.
Le lien entre Marcel Duchamp et les machines célibataires. L'expression même, machine célibataire, est celle de Duchamp. Marcel Duchamp aimait les allitérations, il aimait les jeux de mots, il a même publié sous le nom « Érose, c'est la vie », un recueil de contrepétrie. Et cette expression fait partie de nombreux titres, de nombreux symboles et messages inscrits dans son œuvre, son grand œuvre, on pourrait dire, « Le grand vert, la mariée mise à nu par ses célibataires même ». C'est une œuvre à deux niveaux, réalisée sur du verre. Marcel Duchamp, en choisissant de peindre sur du verre et en laissant beaucoup d'espace vide, car en fait cette œuvre est inachevée volontairement, interroge la fonction du tableau. Normalement, le champ du tableau doit projeter un univers, susciter une émotion. Là, ça va être le vide du tableau qui va agir. Ce tableau a deux parties. Une partie céleste, une partie terrestre. Dans la partie terrestre, qui est associée en fait à l'érotisme masculin, Duchamp regroupe différentes figures sur lesquelles il a travaillé pendant 10 ans, et notamment les fameux moules maliques, qui sont donc une série d'uniformes, ou de moules d'uniformes, qui sont associés à un mécanisme. Hein, on arrive à voir dans une perspective une certaine rotation. Et tous ces uniformes dégagent un certain gaz dont le but est d'aller séduire, d'attirer la mariée céleste dans leur piège, en quelque sorte. Chose qui ne se passera pas, ces moules maliques sont condamnées à l'onanisme. D'où l'appellation de machine célibataire, une machine qui tourne à vide, une machine de séduction qui reste condamnée au célibat. C'est une œuvre qui a fait couler beaucoup d'encre, et un certain écrivain y a vu un sens alchimique.
De Michel Carouge, qui ont été réalisées par son fils Jean-Louis Couturier. Elles ont été montrées en exposition donc, il y a 40 ans, 1976, à l'occasion de l'exposition sur les machines célibataires aux Arts Déco à Paris et à l'occasion du livre. Et ça aussi, c'est pour ne pas être célibataire dans ma pratique sur l'imaginaire. Je fais un blog, j'ai toujours fait des blogs. Et à un moment donné, je dis ah bah, je travaille là-dessus sur les machines célibataires et Michel Carouge, super bien. Et là, c'est donc son fils qui a pris contact avec moi, qui a réalisé les planches et qui dit ah, mais je vois que vous intéressez à mon père, et la première question c'est vous avez les planches, est-ce qu'elles existent? Ah oui, et c'est moi qui les ai faites. Et Jean-Louis Couturier qui m'a contacté, mais c'est aussi parce que de poser des petits cailloux sur internet à un moment donné, ça fait aussi remonter des jolies choses. Et dans le processus, ce que j'ai voulu faire, c'était bien sûr faire une exposition, mais c'est surtout être dans un processus de réaliser une exposition, parce que c'est pour les aventures auxquelles ça va mener, c'est-à-dire de me retrouver à passer une journée à Sèvres, à regarder ces planches-là qui n'ont pas été sorties depuis des années, ou envoyer des courriers postaux à des bouquinistes de Buenos Aires pour retrouver la trace du fils de Nora Borges pour essayer d'avoir les droits sur son dessin, et rencontrer des personnes de l'Oulipo qui finalement avec qui je vais travailler par la suite, et puis faire des voyages avec Pierre Bastien avec qui je travaille à côté. Voilà, tout ça c'est ce qui m'intéresse en fait dans les projets, c'est le travail qui va avec, les modélisations qu'on imagine, le travail et ce que ça ouvre en fait, parce que moi j'ai envie de petit à petit à chaque fois d'écrire un peu ma vie de cette façon par les projets, c'est-à-dire que je nourris les projets de ma vie, mais les projets nourrissent ma vie. Donc tout ça, ça influence un petit peu l'écriture aussi de ma vie. C'est Villa Matas qui en parle bien, il y a son nombre dans l'exposition. Je lui ai demandé de donner son nombre à l'exposition. Il citait dans un livre un écrivain argentin qui s'appelle Fogville qui disait « écrire pour ne plus être écrit ». C'est-à-dire à un moment donné, avoir une prise d'existence qui soit plus volontaire, et même si elle est difficile à prendre, de s'extraire des dispositifs habituels où tout nous noie avec de la sollicitation en permanence. Voilà, de ne pas être passager de sa vie, quoi.
Il est à l'endroit, c'est en fait, ça, un vrai instrument. Un instrument algérien.
Quand on fait du scotch, la feuille d'un côté, on met la motivation et la met, ça fait traîner la feuille, et ça la fait taper sur le tambour, ça va faire de la musique. Oui,
musically speaking, I'm not a well-trained musician. I'm more or less like a pop musician, just I don't play pop music. No, it's not very complicated what I do. It's, you could describe it as anti-conceptual, probably, this kind of music art.
C'est certainement, pour moi, c'est la chambre de l'ineffable de l'exposition, c'est l'orchestre de papier de Pierre Bastien, qui est un orchestre automatique uniquement joué par du papier. Donc du papier qui joue sur des tambourins, il y a des orgues de papier, il y a des flûtes de papier. Et pour moi, ça se joue vraiment sur le verbe et les limites du verbe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut mettre tout le langage qu'on veut, mais les mots manquent à l'appel. On va toucher au saint des saints, au temple, au sacré, tout ce qu'on ne peut pas dire et pourtant qui est le moteur de nos choix d'existence. Dans ma recherche des lieux, quel est le lieu de l'imaginaire, on a forcément ce lieu-là est au centre de tout. Mon but petit à petit, c'est de sortir par filet, par de la pêche un peu, d'extraire et de mettre très délicatement à la lumière du jour, en extrayant très délicatement tout ça, des bouts de cet ineffable et de le mettre en langage et en forme. Thank you.
présente un orchestre mécanique. Moi, je présente toujours un orchestre de ma fabrication. C'est ma vie, ça, de fabriquer des orchestres qui marchent avec ou sans moi. Quand ils marchent sans moi, ils marchent sous forme d'installation sonore pendant des mois, avec un chef d'orchestre mécanique qui déclenche tous les éléments. Et puis quand ils marchent avec moi, c'est moi qui déclenche, qui fait le trigger.
Les cerveaux sont incroyables, en fait on a tous nos singularités, c'est-à-dire qu'on est quand même composé de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, des images que l'on voit, que l'on prend en fait. Donc après c'est aussi décider ce qui va venir peupler notre imaginaire. On peut très bien décider de passer son temps sur Facebook, YouTube et de laisser les algorithmes choisir pour nous de la prochaine image qu'on va voir, et petit à petit ça se met dans notre cerveau, où on peut décider en fait de donner du soin et de l'attention à ce à quoi on va être en contact. Et de couper des canaux pour finalement qu'un peu plus de beauté rentre et un peu plus de sens, parce que maintenant on est quand même dans une génération internet par rapport à cette génération-là, enfin on va dire 100 ans après Marcel Duchamp et ses notes, on a vraiment beaucoup de choses qui atteignent notre attention et beaucoup de choses dont on ne veut pas et malgré tout qui se cramponnent. Donc c'est aussi mettre des barrières sur ce qu'allait venir occuper mon cerveau pour me concentrer sur ce que j'appelle moi mes pierres précieuses, c'est-à-dire les figures qui reviennent et dans les notions qui reviennent, où ça va être le sillon, ça va être ces histoires quand même de mariés, forcément de Duchamp sont très fortes, son grand vers c'est une œuvre motrice, c'est-à-dire que tout le monde essaye de la lire d'une certaine façon et tout le monde la lit avec son histoire, donc d'isoler ces figures-là et de pousser ma réflexion jusqu'au bout, de voir pourquoi je suis intriguée par des topographies comme celle de la mention de Morel. Pourquoi ce roman me parle tant ? Donc essayer de partir en exploration.